Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une session de texte attiré du média suivant. La presse. Au programme, gare aux excès de collaboration. La deuxième vie du glamping. L'obsolence. Et Hydro-Québec encaisse 38 millions en vendant ses rebuts. Bonne écoute.
Gare aux excès de collaboration. Un texte d'Alain Gosselin, paru le 16 mai 2023 dans la presse. J'ai le sentiment d'être constamment débordé. Les réunions s'enchaînent sans pause et je ne parviens jamais à passer à travers mes courriels. Je réalise que j'ai tendance à aider tout le monde, mais que je peine à faire avancer mes propres objectifs. Suis-je trop collaboratif? Demande Charles. De nos jours, nous partageons tous, à divers degrés, ce sentiment de surcharge qui s'avère une source majeure de stress, de frustration et d'épuisement. Cette impression que nous travaillons toujours plus fort sans parvenir à réaliser tout ce que nous avions prévu, faute de temps. Que se passe-t-il? Charles pointe son excès de collaboration comme la source de son problème. Il n'a pas tort. Les organisations demandent plus que jamais de travailler en équipe, en mode projet, de bâtir des ponts entre les silos, de se rendre disponible pour les autres afin de mettre en commun les idées et les connaissances. Mais nous oublions que la collaboration n'engendre pas que des bénéfices. Elle comporte aussi un coût élevé en temps qui est largement sous-estimé. Les données récentes colligées par Rob Cross, professeur au Babson College à Boston, montrent que plus de 85% de notre travail s'effectue en mode collaboration avec d'autres par l'entremise de courriels, de réunions ou d'appels téléphoniques. Cette situation laisse très peu de place au travail individuel profond, de réflexion, d'analyse, de créativité et de développement personnel qui s'avère pourtant une importante source de productivité et de satisfaction au travail. Aussi, les activités collaboratives peuvent conduire à des interruptions fréquentes et désordonnées qui rompent notre concentration au travail. Pourquoi cet excès de collaboration? Pour répondre à cette question, Charles pourrait se regarder dans le miroir car les collaborateurs surchargés sont largement responsables de leur situation. Chargés de bonnes intentions, ils tirent souvent une certaine valorisation du fait d'être sollicités et d'avoir de l'influence. Ils aiment se sentir utiles, voire indispensables. Ils créent ainsi un cercle vertueux. Plus ils collaborent, plus ils incitent les autres à venir vers eux pour de l'aide. Toutefois, ils finissent par faire tourner progressivement cette situation en un cercle vicieux de surcharge avec un volume croissant de demandes de collaboration qui les dépasse. Ils sont alors à risque de devenir un goulot d'étranglement autour d'eux, ce qui ralentit les décisions et diminue l'efficacité. Que peut faire Charles? La première chose à faire est de prendre conscience de sa propre contribution à la situation qu'il déplore. Cela ne veut pas dire de cesser de collaborer. Au contraire, les organisations ont besoin plus que jamais de gens comme Charles qui pensent de façon transversale entre les secteurs qui n'ont pas de comportements territoriaux dysfonctionnels. Cependant, il doit apprendre à maîtriser ou discipliner son désir d'aider tout le monde, tout le temps. Charles doit adopter une posture plus offensive sur les choses qu'il contrôle et peut influencer. Cela commence par avoir une idée claire de ses priorités et de ne pas s'en laisser détourner. Il doit apprendre à scénariser son travail en plaçant ses priorités en premier dans son agenda, dont des blocs de 2 heures pour réfléchir, planifier et apprendre. Il doit aussi établir des normes qui vont l'aider à filtrer et à prioriser les demandes de collaboration. cela peut vouloir dire une limite de disponibilité et de temps pour des rencontres. Cela peut être également de ne participer qu'aux réunions où il est susceptible d'apporter une contribution significative. Il doit aussi changer certaines mauvaises habitudes, dont celle d'être mal à l'aise de dire non aux autres. Une bonne façon d'y arriver est de se demander « Si je dis oui à ceci, à quoi d'autre de plus important dois-je dire non ?» Ne pas se laisser interrompre ou distraire à tout moment devrait également être une priorité. Cela implique de mettre une limite au courriel trop long et à l'usage abusif de CC, copie conforme. De façon évidente, il faut aussi résister à la tentation de regarder ses courriels constamment et d'y répondre dans la seconde. Charles doit faire savoir aux autres qu'il veut rééquilibrer la situation. Cela implique d'être plus transparent sur ses priorités, ses normes et ses limites de temps, tout en amenant ceux qui ont besoin de son aide à mieux préciser dès le début leurs besoins et attentes. Quelle est ta question? Finalement, le collaborateur surchargé doit laisser plus d'espace aux idées et aux talents des autres. Il importe de les valoriser pour rediriger les demandes de collaboration vers des personnes tout aussi en mesure d'y répondre. L'effet cumulé des suggestions précédentes, pourtant toutes simples, peut faire une différence significative dans la capacité de Charles à reprendre le contrôle de sa contribution et de son impact au travail. C'était « Gare aux excès de collaboration », un texte de Alain Gosselin, paru le 16 mai 2023 dans la presse. La deuxième vie du glamping. Un texte d'Adriane Kroll et Martin Chamberlain, paru le 8 mai 2023 dans la presse. Sherbrooke. Les campeurs qui séjournent au camping des voltigeurs à Drummondville transporteront bientôt leurs bûches dans un sac aux couleurs étrangement familières. Et pour cause. Ils seront fabriqués avec la toile beige des tentes Utopia en fin de parcours, résultat d'une entente d'économie circulaire entre la CEPAC et l'entreprise d'insertion estrienne Récupex. Logé en pleine zone industrielle à Sherbrooke, l'entrepôt de Récupex est un véritable carrefour des textiles en quête d'une nouvelle vie. L'organisme à but non lucratif qui gère une centaine de cloches de dons en Estrie est le plus gros récupérateur de vêtements de la région. Il reçoit environ 4 millions de livres de vêtements par an. Au triage, les plus belles pièces sont conservées pour la coquette friperie Taffy et compagnie, située rue Wellington Nord, au centre-ville. Le reste est transféré à l'organisme d'économie sociale Renaissance, sauf les manteaux de cuir et de fourrure. Ceux-là sont mis de côté pour servir de matière première aux sacs, mitaines, étuis et autres coussins fabriqués au deuxième étage dans l'atelier de couture. Ces créations soignées, confectionnées par des participants au programme Expérience en entreprise d'insertion de Service Québec, sont également vendues chez Taffy. Revendre ces manteaux de cuir et de fourrure tels quels dans la friperie rapporterait sans doute plus d'argent, reconnaît le directeur général Danny Roy. Mais on est une entreprise d'insertion. Notre objectif est de permettre à des gens de vivre une expérience de travail pour s'intégrer au marché de l'emploi, explique-t-il. Les participantes, en majorité des femmes, suivent une formation pratique de 6 mois, à raison de 35 heures par semaine rémunérées par Service Québec. Plusieurs participantes étant immigrantes ou réfugiées, des cours de francisation sont aussi offerts sur place. On travaille beaucoup sur le savoir-faire, mais aussi sur le savoir-être, la culture du marché de l'emploi, les bonnes habitudes et la communication au travail, dit Danny Roy, directeur général de Récupex. Cette mission, et l'importante capacité d'entreposage de Récupex a convaincu le responsable du développement durable de la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC. Dans les 5 prochaines années, on aura environ 500 tentes Utopia à renouveler, souligne Hugues sans regret. Ces tentes utilisées pour le prêt-à-camper, une tendance parfois appelée « glamping », doivent être remplacées lorsqu'elles sont trouées ou abîmées, environ tous les 5 ans. Le parc national du Bic a été le premier à soulever le problème. Que faire pour ne pas jeter toutes ces toiles? On a fait une consultation interne des employés, raconte M. Sans Regret. La CEPAC ayant plusieurs modèles de barbecue, l'idée d'une housse pour ces appareils a dû être écartée. Mais quand le porte-bûche est sorti à la réunion des responsables de maintenance, tout le monde a dit oui. Ces sacs de transport ouverts sur les côtés sont constitués d'un simple panneau de textile muni de ganses. La CEPAC en achète jusqu'à 2000 par an, au plus bas soumissionnaire retenu par Québec. Mais pour ce nouveau projet, c'est plutôt un service de couture dont elle avait besoin. Ses recherches l'ont amené chez Récupex. Après quelques mois à tester des prototypes et des processus de fabrication, l'entreprise a installé un tout nouveau poste de travail au cœur de son entrepôt, avec une table de coupe pour les toiles, une station pour les ganses et 2 machines à coudre. Ça nous permet de diversifier notre offre de formation en couture. Être capable de faire de la répétition et d'aller chercher une certaine rapidité de production, c'est vraiment un plus pour nos participants. Et avec une première entente de 3 ans, c'est un projet qui donne une perspective à moyen terme, dit Danny Roy, directeur général de Récupex. Chaque porte-bûche doit pouvoir soutenir le poids de 0,7 pieds cubes de bûche. La toile mate, moins robuste, doit être doublée, ce qui permet de fabriquer 60 porte-bûches par tente, contre 120 avec les tentes au fini lustré. Environ 70% des toiles est ainsi récupérée, et c'est sans compter les attaches de métal et la toile des séparateurs intérieurs des tentes, jamais exposées aux intempéries, qui pourraient servir à fabriquer d'autres articles, comme des sacs. Ce porte-bûche coûte 7 $ à la CEPAC, soit environ 2,50 $ de plus que le modèle actuellement acheté aux fournisseurs ayant soumissionné au plus bas prix. Il nous coûte plus cher, mais c'est du bonbon à nos yeux parce qu'on réinjecte l'argent dans l'économie circulaire. On crée des occasions d'emploi et l'argent reste chez nous. Le bénéfice est beaucoup plus grand, fait valoir M. Sans Regret. Et sans ce projet, la CEPAC aurait dû payer pour se débarrasser de ses 500 tentes. C'est l'équivalent de 6 hectares de toile. Il y a un coût environnemental et un coût de gestion à cela. Ça n'a donc pas été très difficile à vendre chez nous. Les 800 premiers porte-bûches qui sortiront de chez Récupex d'ici la fin mai iront au camping des Voltigeurs. Les prochains seront répartis entre les parcs nationaux de Frontenac et de Mont-Mégantic durant l'été. Les autres seront ensuite distribués progressivement dans le reste du réseau de la CEPAC. C'était « La deuxième vie du glamping », un texte d'Ariane Kroll et Martin Chamberlain, paru le 8 mai 2023 dans la presse. L'obsolescence. Un texte de Marc Séguin, paru le 14 mai 2023 dans la presse. Qui plante un poirier le plante pour ses héritiers. Une expression entendue il y a plus de 20 ans alors que j'en avais planté 2. Le proverbe semble vrai. Un fruit de temps en temps. L'ail des bois a fière allure. Le magnolia vient de faner après 2 semaines de feux d'artifice avec les tulipes et les crocus. C'est au tour des pommiers de briller cette fin de semaine. Une mer blanche de fleurs qui flotte. Plus loin, dans la forêt, Au sol, le muguet s'est pointé. Le printemps aussi. Une chatte a rencontré un matou une nuit et ça ne ressemblait pas aux instructions du consentement. Le potager est planté et semé au complet. Mi-mai, c'est dans la moyenne. Les mains dans la terre, non pas pour sentir les vibrations du sol, mais pour la température. C'est froid, mais ça s'endure. Alors, les plantes qui savent mieux que nous survivront. Pas de risque de gros gel en vue. Plusieurs journées à labourer ces dernières semaines, à force de bras cette année. Le motoculteur a rendu l'âme l'automne dernier. Je l'ai démonté ce printemps et les pièces n'existent plus. Discontinué, m'a dit au téléphone la madame en banlieue de Toronto lorsque j'ai trouvé le problème et voulu le réparer. J'avais réussi à changer plusieurs pièces sur une souffleuse l'automne dernier en passant par un fournisseur du Maryland. Faut apprendre à se débrouiller à travers les mille et une promesses des choses neuves qu'on peut acheter et se faire livrer rapidement pour remplacer tout ce qui cloche un peu. Si ce n'est pas de la peinture ou de la terre, c'est de la graisse à machine que j'ai sur les doigts à l'année. Ce sera un petit dimanche, car lorsque le corps est éreinté par les heures de travail physique, il y a moins d'irritation de l'âme par les actualités. Quoique, celle-ci a retenu mon attention. Une personne, à Hawaï, a suivi son GPS jusque sur un quai, n'a pas arrêté et la voiture s'est retrouvée dans l'eau. Libre à vous d'y trouver une ressemblance avec le rocambolesque calembour du troisième lien. Ne pas toujours se fier au système de guidage. On revient. La plantation des érables à sucre s'est terminée cette semaine. À cause d'une erreur de calcul de superficie, il en manque 150 pour finir la job. Pas grave, que l'ingénieur forestier dit « J'ai des chênes à gros fruits ».« Yes, sir, madame », j'ai dit. « Et bonne fête à toutes les mamans du monde au passage. J'offre toujours de l'ail des bois à la mienne ces dimanches de mai. » En marchant dans la forêt il y a plusieurs années, j'étais tombé sur une famille de chênes à gros fruits. Un regroupement de 9 arbres majestueux entre 250 et 350 ans d'âge, m'a-t-on confirmé. On se demande comment ils ont pu échapper à l'exploitation aussi longtemps. Ensemble, ils forment un paysage surréel et grandiose. 35 mètres de hauteur et des troncs comme des piliers de temple. Une sorte de respect spirituel, liturgique. Une attirance venue d'un sentiment qui tend à disparaître. Fascination et étrangeté donc devant cette nature, car on croise rarement ce genre de témoignage temporel. Ça impose respect et révérence. Ainsi donc, des choses savent durer, on se dit, même si parfois, souvent, c'est parce qu'elles sont cachées. À peu près 80% de la main-d'œuvre humaine pourrait être remplacée par l'intelligence artificielle. A-t-on aussi appris la semaine dernière? Et à travers cet aveuglement volontaire d'une énième fin du monde annoncée, quand ce n'est pas les catastrophes écologiques, c'est la faute aux robots, à la technologie, au narcissisme, aux objets qui ne durent pas, aux vues trop courtes des gens de pouvoir, aux inégalités de richesse et d'esprit. Je me suis demandé si on était intelligent. Assez, semble-t-il, pour inventer un GPS et le suivre aveuglément jusque dans l'océan. Ben, coudonc. Et j'ai souri en imaginant un autre humain, dans 3 ou 4 siècles, qui pourrait s'émerveiller d'une petite forêt de 150 chênes à gros fruits plantés sans aucune intention commerciale ou d'exploitation. Uniquement pour le sentiment qu'il puisse effleurer une conscience, juste pour envoyer chier la fin de tout. C'était L'obsolescence, un texte de Marc Séguin, paru le 14 mai 2023 dans la presse. Hydro-Québec encaisse 38 millions en vendant ses rebuts. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 13 mai 2023 dans la presse. vendre ses robes, des jouets, sa mijoteuse ou des bouts de gouttière sur l'Internet est devenu banal. Inutile, ou presque, d'organiser une vente de garage, les plateformes en ligne sont d'une efficacité remarquable pour se débarrasser de ces biens. Les entreprises se retrouvent elles aussi avec des biens usés, inutiles ou en fin de vie. Mais rares sont celles qui ont le réflexe de mettre tout ça en vente. L'exercice demande du temps, des personnes qui s'y consacrent, de l'espace d'entreposage et une expertise. Car ce n'est pas évident de trouver des débouchés pour ces rebuts, surtout quand il s'agit de matériaux inusités. Le dépotoir est toujours l'option la plus simple. Mais en 2023, veut-on encore que ce soit le premier réflexe? Certainement pas. Chez Hydro-Québec, la volonté de se débarrasser des rebuts de façon écologique existe depuis des années. Mais les efforts sont de plus en plus soutenus, ce qui donne des résultats remarquables. Il y a une grosse croissance. On a pris les choses en main. En 5 ans, on est passé de 10 à 37,8 millions de ventes. On fait une meilleure job de mise en marché et le cours des métaux a augmenté, m'a expliqué le chef du service de la valorisation des biens meubles excédentaires de la Société d'État, Maxime Gilbert. Son équipe compte 9 personnes. La liste de ce qui est vendu au plus offrant est aussi longue que diversifiée. Motoneige, nacelle, camion, bande de scie, perceuse, souffleuse à neige, dameuse, cuivre, fer, aluminium, génératrice, conteneur, transformateur, classeur, bureau. Et même l'huile à patate frite, utilisée dans les cafétérias dans le nord du Québec. Jusqu'à il y a 2 ans, on payait une entreprise qui venait la chercher. Maintenant, on la vend, relate Maxime Gilbert. Ce n'est pas significatif sur les 38 millions, mais c'est passé d'un déchet à une source de revenus. On en fait du biocarburant, des cosmétiques et de la nourriture animale. Parfois, il est impossible de vendre certains biens. Personne ne veut payer pour ces objets, mais il y a quand même moyen de faire mieux que l'enfouissement en cherchant un peu. C'est ainsi qu'Hydro-Québec a trouvé un débouché pour sa quantité phénoménale de cartables qui dormaient quelque part. Après avoir contacté les commissions scolaires qui n'en voulaient pas, le groupe AFI les a pris, en échange d'une certaine somme d'argent. Ses employés, en majorité handicapés, défont les cartables, ce qui permet aux cartons et aux anneaux de métal d'être recyclés. Jusqu'ici, 50 000 ont échappé au dépotoir. Même chose ou presque avec les vêtements de travail, comme ces manteaux conçus pour protéger les travailleurs jusqu'à moins 40 degrés centigrades et leurs mitaines ultra chaudes. Ça vaut une fortune, mais une fois usés, qu'en faire? Ils sont donnés au réseau CFER, un regroupement de 23 écoles-entreprises qui forment des jeunes ayant d'importants retards scolaires. Les vêtements sont remis en état et vendus de sorte que l'activité s'autofinance. Le matériel informatique est vendu à l'entreprise d'insertion sans but lucratif Insertec à Montréal. L'équipement industriel et les outils prennent le chemin des encans organisés par Richie Bross à Mont-Saint-Hilaire. L'ameublement de bureaux s'en va à Saint-François-du-Lac, chez Matériaux et Surplus Lefebvre, dont le stock en ligne vous décontenancera à coup sûr. Quant aux véhicules en tout genre, ils sont vendus à l'encan ou directement à des revendeurs. Hydro-Québec a bien sûr profité de la hausse marquée des prix pendant la pandémie. Ces vieux pick-up, tout particulièrement, se vendaient alors à des prix de fou. La Société d'État a aussi mis en place un réseau pour se donner des choses à l'interne. Tout le monde préfère le neuf, mais cela évite bien des achats inutiles. Quel type de rebut représente le plus grand défi? Les gros cylindres de porcelaine qu'on retrouve dans les postes du réseau de transport à haute tension. L'équipe de valorisation cherche une entreprise qui pourrait broyer le matériau en vue de l'ajouter à d'autres matières utilisées pour faire du remplissage sous un trottoir, par exemple. C'est à peu près le mieux qu'on peut faire avec ça. Pour l'instant, on est en dépense, c'est un rebut. Mais on a peut-être trouvé preneur, espère Maxime Gilbert. au Centre de transfert technologique en écologie industrielle, CTTEI. La directrice générale Claude Maheu-Picard a été estomaquée d'apprendre qu'Hydro-Québec avait réalisé des dizaines de millions de dollars en vendant ses rebuts. Wow, c'est incroyable, voyons donc, c'est un beau cas d'espèce. J'espère que ça va inspirer d'autres organisations. Experte en économie circulaire et en valorisation des résidus industriels, elle m'a appris que c'était assez rare qu'une organisation fasse des efforts pour vendre ses choses, hormis son matériel informatique. Desjardins était d'ailleurs le seul autre exemple qu'elle pouvait nommer. La revente représente des enjeux logistiques et de stockage, mais rapporte rarement de l'argent. Ceux qui font des démarches, c'est parce qu'ils trouvent que jeter les choses, ça n'a pas de bon sens, relate Claude Maheu-Picard. Malheureusement, les entreprises qui voudraient faire de l'économie circulaire sont mal servies. Elles doivent se débrouiller seules, ou presque, de sorte que c'est beaucoup plus compliqué pour elles que pour le simple citoyen. Pour conclure, la directrice générale du CTTEI avait une suggestion intéressante pour Hydro-Québec. Créer un fonds avec ses 38 millions pour aider de petites entreprises ou organisations à faire comme elles. Le message est lancé. C'était « Hydro-Québec encaisse 38 millions en vendant ses rebuts », un texte de Marie-Ève Fournier paru le 13 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.